et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec notre invité. Alors ne vous fiez pas aux apparences, vraiment, il ne faut pas se fier aux apparences. Cette jeune humoriste belge ressemble comme deux gouttes d'eau, Alicia me permet, à l'intello du lycée qu'on retrouve généralement assis au premier rang de la classe. Certains diront, ça faillote un peu, mais oui, mais bon, elle est comme ça. Pourtant, derrière de Sainte-Nitouche se cache en fait en réalité un monstre mélomane. Elle fait aussi de la musique, capable surtout de lâcher 1000 abominations par seconde. C'est ce qu'elle nous a montré, c'était déjà en 2017, si vous l'avez suivi, lorsqu'elle a gagné la 12e saison de La France, un incroyable talent hein, sur M6. Et cette semaine, C8 lui consacre une soirée toute entière. Elle lui déroule le tapis rouge avec évidemment un certain nombre de sketchs, de spectacles, mais aussi également un documentaire qui nous apprend à mieux la connaître. Laura Laune, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz Télé, je le disais, ce jeudi soir, donc demain, en prime time, Le diable est une gentille petite fille. Hein, c'est le titre du spectacle qui a été capté et qui est diffusé demain sur C8, suivi en effet d'un documentaire. On vous a filmé sur votre vie, on va dire, professionnelle, mais aussi un peu plus personnelle. Donc on va manger finalement du Laura Laune toute la soirée,
oui,
hein, pendant plus
clair,
de 3 heures.
Vous
avez toujours rêvé de passer une nuit entière avec les téléspectateurs français, d'une certaine manière.
Oui, je suis vraiment très contente qu'il y ait cette soirée. Et puis surtout, je suis contente que C8 diffuse mon spectacle, parce que c'est vrai que j'ai parfois, de par mon humour, une certaine barrière avec les médias. Et les médias sont un peu frileux de diffuser mes sketchs. Et là, c'est trop bien. Là, vraiment, il y a le spectacle, puis le documentaire. Je suis vraiment très contente.
Il n'y a eu aucune retenue de la part de C8, justement, parce que parfois, vous avez en effet un langage assez brutal, on va le dire. Hein, et ceux qui vous suivent le voient régulièrement. Il n'y a pas eu du tout de, entre guillemets, censure, retenue de la part de la chaîne en se disant, est-ce qu'on a le droit d'aller aussi loin parfois en prime time?
Non, non, c'est génial, parce que je les remercie vraiment, parce qu'il n'y a eu aucune, il y a vraiment, ils ne m'ont pas dit, tiens, est-ce qu'on peut biper sur ce mot-là ou un truc comme ça. Non, non, ils assument, et vraiment, c'est une grande chance.
Et cette retenue de certains médias, elle est toujours présente aujourd'hui?
Alors, ça va de mieux en mieux, enfin, il y a de moins en moins
Vous avez adouci votre discours, ou au contraire?
Alors, pas du tout, c'est vraiment un truc que je n'ai jamais voulu faire. Mais par contre, je pense que comme il y a vraiment le public qui me suit, les médias sont de moins en moins frileux parce qu'ils savent que je suis soutenue par le public et que finalement le public comprend mon humour. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été quand même assez compliqué, et j'ai eu beaucoup de prestations qui ont été coupées, ou alors des médias qui me proposaient de venir et puis qui me disaient est-ce qu'on peut enlever telle vanne, et il y a eu beaucoup de négociations, c'était pas toujours simple.
Ce qu'on appelle un peu de la censure, quoi.
Exactement.
Nous sommes en direct avec Laura Laune sur le Figaro Live. Je rappelle, diffusé sur le figaro.fr, mais également sur la page YouTube de TV Magazine. N'hésitez pas à remonter des remarques, des questions. Quel regard vous portez également sur sa carrière, sa jeune carrière? Est-ce que vous faites partie des fans qui la suivent à l'occasion de ses tournées en France et sur les routes de Navarre? En attendant, je vous propose surtout de retrouver Damien Canivez pour les news médias du jour. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe, bonjour Laura.
Alors Damien, tradition oblige, on démarre toujours, Laura également, avec les audiences télé de la veille.
Effectivement, et TF1 qui poursuivait la saison All-Star de Koh-Lanta s'est hissé sur la première marche du podium en compagnie de 4,5 millions de fidèles, 22% du public. Ce qui est un score d'ailleurs en légère hausse hein, si on le compare par rapport à la semaine dernière. C'est 700 000 téléspectateurs de plus que France 3 qui lançait sa série policière Sophie Cross avec Alexia Barlier. France 2 enfile la médaille de bronze grâce à un documentaire intitulé « Kalahari, l'autre loi de la jungle ». Et enfin, on termine avec cette audience du discours d'Emmanuel Macron. Vous le savez, hier soir, le chef de l'État a pris la parole depuis l'Élysée pour annoncer un certain nombre de mesures et également pour justifier son bilan. Si on cumule les chiffres de TF1, France 2, TMC, M6, ainsi que les chaînes d'information en continu, on aboutit à un score de plus de 20 millions de téléspectateurs, soit près de 80% du public.
Emmanuel Macron, le président de la République française, vous l'aviez raillé à travers une vidéo et en effet une chanson que vous aviez écrite à l'époque. C'est toujours une source d'inspiration, Emmanuel Macron, pour vous?
La politique, de manière générale, je pense que pour les humoristes, c'est toujours une source d'inspiration, et puis surtout le quotidien. Donc oui, on s'inspire beaucoup de l'actualité, et je n'échappe pas à la règle.
Oui, et le prochain, vous aviez regardé hier soir son allocution?
Mais non, je n'ai pas du tout regardé.
On sera l'occasion peut-être de montrer, faire un sketch ou une chanson sur ce sujet.
Il faut que je regarde.
On poursuit les news médias avec un coup de tonnerre dans Koh-Lanta, le jeu de TF1.
Ah oui, attention, là, bouclez vos ceintures. Hier soir, TF1 dégainé en première partie de soirée un nouvel épisode donc de la saison All-Star de Koh-Lanta sur TF1, toujours animé par Denis Brognard. Et cette soirée a été marquée par un véritable coup de théâtre, l'exclusion d'un candidat emblématique de l'émission, Théoura. Il est accusé, figurez-vous, d'avoir triché, de s'être procuré de la nourriture avec la complicité des pêcheurs qui passaient au large de l'île sur laquelle il se trouvait. Scandale. Le candidat tahitien, alors attention, il n'a jamais nié, il a reconnu les faits. Et il a même précisé ce matin dans les colonnes du Parisien qu'il avait partagé son repas avec d'autres candidats. Donc vous voyez, le scandale se poursuit et il n'a pas donné les noms. Donc il va falloir enquêter.
Koh-Lanta, vous suivez ?
Non, je ne regarde pas beaucoup la télé.
Vous regardez pas du tout la télé ?
Non, pas trop, non. Mais j'en ai entendu parler parce que j'ai des amis qui suivent et qui m'ont dit « Oh là là, ce qui se passe en Koh-Lanta, c'est
incroyable.
Chaud, mais
je
n'ai pas suivi. »
Et comme Théo, dans Koh-Lanta, est-ce que vous avez, vous, honteusement triché un jour dans votre vie ?
Triché à l'école.
À l'école, ah oui.
Ah ouais.
Vous avez regardé sur la copie du voisin ?
Non, non, alors pire.
Pire, il y avait des antisèches.
Non, encore pire que ça. Pour un examen, je me souviens, c'était à l'université en plus, il y avait une dissertation à faire et c'est mon père qui me l'a faite entièrement.
Non.
Et puis j'ai eu 20 sur 20. Donc,
C'est du propre. Pour les enfants qui nous regardent, ne suivez pas cet exemple.
Voilà.
Allez, on termine en beauté avec un jeu de mots puisqu'évidemment on va parler de Miss Univers. On connaît enfin le nom de la France.
Oui, effectivement, la société Miss France a annoncé hier que Clémence Bottineau porterait les couleurs de la France lors de cette cérémonie qui se tiendra le 12 décembre prochain en Israël. Clémence Bottineau a porté l'écharpe de Miss France 2020. Elle aurait dû participer à cette élection internationale l'année dernière, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une petite pandémie qui frappait le monde et c'est la raison pour laquelle cette élection a été malheureusement reportée à cette année. Clémence Bottineau tentera donc de reproduire un petit peu le parcours d'Iris Mittenard. Vous savez, Iris Mittenard, qui est la dernière Française à avoir porté le diadème de Miss Univers, c'était il y a 4 ans déjà.
Alors les Miss, il n'y a pas qu'en France, il y a également des Miss en Belgique. Hein.
Ouais,
d'ailleurs,
certaines
représentantes en France à la télévision qui ont été élu. Qu'est-ce que vous pensez de ces concours de beauté ? Il y a eu une polémique en France en disant c'est peut-être trop ringard, il faut changer certaines règles.
Ouais, moi je ne suis pas fan du tout en fait. Effectivement, je trouve que c'est plus actuel et ça me choque un peu en fait de voir. Je sais qu'elles ne sont pas jugées que sur le physique, mais peu importe, tout le concept de l'émission d'avoir des filles qui se battent comme ça en maillot de bain et tout. Enfin, je n'ai rien contre les filles en question, c'est le concept de l'émission, moi, me parle pas du tout en fait. Je trouve que c'est, ouais, comme vous disiez, je trouve que c'est un peu ringard.
On n'aurait jamais pu être candidate, donc, même en Belgique.
Non, de toute façon, je suis trop petite.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a des critères de taille, effectivement.
Merci Damien
avec
pour ces news médias et place tout de suite à la suite de l'interview avec Laura Lone dans le Buzz. Demain soir, ce jeudi 11 novembre, une première partie avec vous, puis une deuxième partie avec notamment la première partie de votre spectacle « Le diable est une gentille petite fille ». Nombreux, en effet, qui vous suivent aujourd'hui connaissent un peu votre humour, on va dire quoi, dévastateur, d'une certaine manière. Le politiquement correct, ce n'est pas du tout dans vos cordes, hein, loin de là même. Comment vous viennent ces idées à chaque fois d'être assez cash, assez violente, au risque parfois, en effet, de frôler la censure d'ailleurs ?
En fait, c'est quand j'ai commencé à écrire, je me suis jamais dit je veux faire de l'humour noir ou je veux choquer ou j'ai commencé à écrire et c'est cet humour-là qui est venu. Et même moi personnellement, je me rendais pas spécialement compte que ça pouvait choquer certaines personnes. C'était juste mon humour. Et donc voilà, ça m'est venu vraiment naturellement. Et puis c'est aussi l'envie de parler de sujets qui me touchent, de dénoncer des choses. C'était ça aussi qui m'animait en fait quand je suis montée sur scène. J'avais envie de à ma façon de dénoncer des choses et de dire des choses, en fait. Et du coup, j'ai utilisé le second degré. C'est ma façon de faire et l'humour noir.
Et alors, si on suit votre spectacle, et les téléspectateurs découvriront demain sur C8, alors, tout le monde en prend pour son grade. Hein. J'en cite quelques-uns, les journalistes, les footballeurs, les musulmans, les handicapés, la manif pour tous aussi. J'en passe et des meilleurs. Vous détestez vraiment tout le monde, au final.
Alors non, justement, je trouve qu'il y a des choses à dire, justement, sur tout ça. Et en fait, moi, mon envie, quand je suis montée sur scène, c'était de parler des injustices et de la discrimination, en fait. Et quand vous citez toutes ces minorités, en fait, c'est vraiment ça qui ressort pour moi, c'est l'envie d'aller dénoncer les discriminations.
Elle est quoi ? C'est un peu, d'une certaine manière, de les défendre, finalement, en les mettant sur le devant de la scène, même si vous les raillez, quand même.
Complètement. Ah bah oui, parce que ça, forcément, c'est le second degré. C'est une façon de faire de l'humour. Et évidemment, ma démarche, c'est de les défendre. Après, bien sûr, j'ai bien conscience qu'un spectacle ne va pas changer le monde. Et voilà, mais je veux dire, en tout cas, à ma façon, voilà, j'avais envie, en tout cas, j'avais besoin de parler de ces choses-là, des choses qui me choquent, du racisme, etc. Et effectivement, c'est fait au second degré. Et parfois, les gens ne comprennent pas le second degré. Ça, c'est malheureusement le revers de la médaille. Mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui comprennent.
Damien, une première question,
ouais,
réaction
justement,
pour notre invité.
Une question à ce propos sur la page YouTube de TV Magazine. Je rappelle que nous sommes également sur lefigaro.fr. C'est Thibaut qui la pose. Pourquoi certaines chaînes, selon vous, censurent encore votre présence avec votre humour noir qui est votre marque de fabrique ? Est-ce que vous avez trouvé une explication à ces décisions des chaînes ?
Ouais, je pense qu'en fait, les médias sont très frileux parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils vont recevoir beaucoup plus de commentaires de personnes qui ne sont pas contentes. Alors qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il y avait autant de personnes qui pouvaient ne pas aimer, mais on les entendait moins. Ouais. Ce qui fait qu'on dit souvent, avant, on pouvait dire ce qu'on voulait, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Et je ne pense pas, je pense que juste aujourd'hui, les médias sont très frileux parce qu'ils ont très peur des réactions sur les réseaux sociaux. Et une fois qu'ils voient, en fait, aujourd'hui, comme ils voient que le public me suit et que le public adhère à mon humour, ça se débloque un petit peu. Mais malgré tout, il y a toujours cette barrière des réseaux sociaux et puis des gens qui n'aiment pas. Puis voilà, ça fait toujours peur.
Est-ce que les réseaux sociaux ont radicalement changé votre métier ?
Alors, moi, les réseaux sociaux, je trouve que c'est... Je trouve qu'il y a un côté très positif, c'est que j'ai un contact direct avec mon public, en fait. Et ça, j'adore, parce que j'ai pas eu besoin forcément d'être dans les médias, à la télé ou en radio, pour me faire connaître. Et comme, justement, au début, j'étais assez censurée, je me suis dit, OK, je vais utiliser mes réseaux. Et j'avais un contact direct avec mon public, des gens qui aimaient ce que je faisais. Et c'est ça qui a permis vraiment de me faire connaître et de faire qu'aujourd'hui, je peux aussi passer dans les médias.
Vous repoussez souvent les frontières du mauvais goût, on peut dire, d'une certaine manière, dans vos spectacles. Vous imposez aucune limite ? Il n'y a vraiment aucune limite dans vos...
Alors, pour moi, il n'y a aucun sujet qui...
Tabou.
Il n'y a aucun sujet tabou. Pour moi, on peut rire de tout. Après, la limite, c'est la façon de faire, en fait. Je pense que pour chaque sujet, il y a une façon différente de l'aborder. Et c'est la façon dont le sujet va être amené qui va faire qu'on va pouvoir en rire ou pas. Donc, je pense que c'est ça tout l'enjeu de l'humour noir, c'est d'arriver à trouver la subtilité qui va faire qu'on va arriver à faire rire même des choses les plus graves.
Alors, l'humour noir, vous l'avez manié dans l'émission On est en direct sur France 2 avec Laurent Ruquier. C'est ce que souligne Pokéfan qui souhaite savoir si vous regrettez votre passage dans cette émission où votre chanson a fait un peu polémique. Alors, c'est vrai qu'on s'en souvient, je crois que c'était en octobre 2020. Vous êtes passé effectivement dans l'émission de Laurent Ruquier diffusée en deuxième partie de soirée sur France 2. Vous avez fait une chanson à votre façon avec des propos parfois très durs, mais toujours sur le ton de l'humour. Et effectivement, on sentait que les sourires étaient un peu crispés. Est-ce que vous regrettez ?
Ah non, alors je regrette pas du tout, c'est mon humour, c'est mon univers. En fait, ce qui était difficile ce jour-là, c'est que c'était l'époque Covid, il n'y avait pas de public en fait. Et donc du coup, on a très peu de réactions dans le public, il y a les masques et tout, et c'est pour ça que c'était un petit peu, l'ambiance était particulière. Mais par contre, l'ambiance était assez froide et pour faire de l'humour sans public, franchement, c'est assez compliqué. Mais je ne regrette pas parce que Laurent Ruquier m'a félicité. Il m'a d'ailleurs réinvité à venir plus tard dans l'émission. J'ai refusé parce que j'étais occupée sur autre chose. Mais en tout cas, j'ai eu énormément de retours positifs et moi, c'est ce que je retiens.
Justement, j'ai aimé Bad Buzz après vos spectacles ou vos interventions sur des plateaux télé, d'une manière générale.
En fait...
Dites, ah, merde, là, en effet, je comprends qu'il y ait une polémique qui se déclenche et sur laquelle, en effet, je suis prise pour cible pour une fois, par l'inverse.
De polémique, pas spécialement. En fait, quand les gens viennent voir mon spectacle, je pense qu'il n'y a vraiment aucun doute. Sur une heure et demie de spectacle, à la fin, il n'y a aucun doute que c'est de l'humour et que les gens rient avec moi de bon cœur et que ça leur fait du bien. Parfois, ce qui est difficile, c'est quand on est diffusé sur les médias. Là, il y a parfois des gens qui tombent sur une vidéo, que peut-être ils tombent sur une vanne qui est peut-être un peu sortie du contexte et du coup, ils peuvent s'offusquer et alors ils vont avoir des réactions hyper virulentes sur les réseaux. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que ça crée une polémique alors que je reçois toujours énormément de messages positifs et beaucoup plus de positifs que de négatifs finalement. Et puis c'est pour ça que je continue évidemment, sinon ça serait bizarre.
D'où vous vient cette fibre justement de cet humour assez noir quand même par moment ? C'est quoi ? C'est votre environnement, votre famille A priori, pas les études, si j'ai bien compris.
En fait, je pense que on dit souvent que l'humour noir, on a toujours l'impression que les gens qui font de l'humour noir peuvent rire de tout parce qu'ils sont insensibles. Mais pour moi, les gens qui font de l'humour noir sont justement les gens qui sont les plus sensibles à tous ces sujets-là et qui, justement, ont envie d'en rire parce que c'est un besoin un peu de désacraliser. Et moi, c'est vraiment ça. En fait, j'ai vraiment une vision du monde. Je trouve qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde tous les jours. Et ma façon d'arriver à survivre à tout ça, finalement, c'est de monter sur scène et d'arriver à en rire avec le public.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question, qui était de savoir d'où venait cette fibre. C'est quoi les racines
En fait, je pense que oui, dans ma famille, dans mes amis, on a toujours eu cet humour-là, surtout avec mes amis. Et du coup, c'est pour ça que je pense que quand j'ai commencé à faire cet humour, ça me semblait hyper naturel et ça ne me semblait pas choquant parce que j'ai été baignée dans cet humour-là depuis que je suis toute petite.
D'accord. Damien.
Une question de Thomas sur Twitter qui aimerait savoir à quand votre deuxième spectacle. Alors, je crois savoir que vous êtes en cours d'écriture actuellement. Ça avance. Quelle sera un petit peu la ligne directrice de ce nouveau show ?
Alors justement, c'est en cours d'écriture et je suis très contente parce que j'avais hâte de commencer à écrire la suite. Et alors, ça va être toujours dans le même univers, ça va être le même humour, mais ça va être beaucoup plus personnel. Donc, ouais. Ça va être des... je vais parler un peu plus de ma vie, de moi, etc. Et voilà, j'ai assez hâte.
Vous n'allez pas vraiment aborder des sujets d'actualité comme vous le faites actuellement ?
Si, il y aura toujours, parce que forcément, ouais. Forcément, j'aborde toujours un peu l'actualité et puis des choses qui parlent à tout le monde. Mais ce sera d'une façon peut-être un peu plus intime et en faisant des détours par mes expériences personnelles.
Vous avez parlé d'Éric Zemmour, c'est une question de Thibault. Il aimerait savoir si vous allez faire un sketch sur Éric Zemmour. C'est vrai qu'on parle beaucoup de lui en ce moment. En France, avec la présidentielle.
Alors, c'est pas, pour l'instant, c'est pas prévu, mais pourquoi pas.
On vous a donné l'idée.
Ça peut être une bonne idée.
Comment vous arrivez à vous renouveler, hein? Vous êtes l'une des rares à faire, on va dire, de l'humour d'une certaine manière trash, souvent en chantant d'ailleurs, hein, avec une guitare, hein, qui est, je crois, l'instrument de prédilection, votre instrument de prédilection. Aujourd'hui, comment vous arrivez à vous renouveler, justement ?
Me renouveler. En fait, c'est je j'ai pas encore, je pense.
Assez... Les sources d'inspiration.
Les sources d'inspiration pour moi, c'est vraiment le quotidien.
La vie quotidienne.
C'est la vie quotidienne, les choses que j'entends dans l'actualité qui m'inspirent et des choses qui me touchent en fait souvent. C'est des choses qui me touchent personnellement dont j'ai envie de parler. C'est vraiment le quotidien, ouais.
Et le sujet, par exemple, qui vous touche le plus aujourd'hui en ce moment dans l'actualité?
Aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisme et ça me touche particulièrement parce que c'est vrai que c'est un métier où on est souvent confronté à des choses compliquées quand on est une femme et cette cause-là me touche particulièrement et je vais en parler notamment dans le prochain
spectacle. Ça a été votre cas justement, vous avez été confronté à du sexisme dans votre carrière. Vous en parlez un petit peu quand même dans le spectacle qu'on verra demain soir sur ouais. C8. Vous dites que vous avez été reçu par des directeurs de casting qui vous ont pas considéré comme une bonne comédienne, mais bonne tout simplement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça a été le cas ?
Oui, ça a été le cas. C'est vrai que quand on est comédienne, on est toujours, on s'axe toujours sur le physique. On a toujours énormément de commentaires sur le physique et je le vois bien. Même quand je publie des vidéos, les commentaires vont être énormément sur le physique. Alors que quand un mec publie une vidéo, on va plutôt commenter le contenu. Des choses comme ça qui sont très banales, ça arrive très très souvent, oui.
Des remarques déjà placées sur les blondes. Par exemple,
ouais, c'est vrai,
ce qui arrive régulièrement.
Ça arrive, ouais. Mais des remarques mal placées, même sans s'en rendre compte. J'ai déjà fait une émission de radio où l'animateur m'a appelée Bichette pendant toute l'émission. Et en fait, c'était juste insupportable. Mais je pense qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. En fait, c'est ça qui est grave.
À 23h, il y aura la deuxième partie, hein, donc le documentaire, hein, que c'est lui que vous consacre. En plus, j'ai dit tout à l'heure sur votre vie à la fois personnelle et professionnelle. On revient notamment sur la victoire, hein, c'est la France Incroyable Talent que vous avez remporté sur M6, c'était déjà en 2017. Le souvenir que vous en avez aujourd'hui, la trace ?
J'ai un super bon souvenir et c'était la première fois qu'un gros média validait mon humour en télé, en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que le public a validé aussi cet humour en votant pour moi, alors que depuis que j'ai... Vraiment, au début, quand j'ai commencé à faire ce métier, j'avais énormément de gens et de professionnels de l'humour qui me disaient « ça ne marchera jamais parce que ça va trop loin et tu dois arrêter ». Et là, le fait que M6 me diffuse et que le public vote pour moi, ça a été vraiment... un super souvenir.
Et on peut le dire, c'était pas gagné parce qu'à l'époque, Gilbert Rozon était accusé d'agression sexuelle et en effet, cette affaire a failli avoir un impact sur votre passage. Je sais pas si on peut le redire à l'époque, il y a des doutes finalement sur le fait que vous puissiez être diffusé.
Tout à fait, parce qu'en fait, moi j'avais enregistré l'émission et la diffusion devait être 2 mois plus tard. Et ça s'était super bien passé, donc j'avais vraiment hâte que la diffusion ait lieu. Et puis finalement, ils ont annulé toutes les diffusions d'Incroyable Talent avant, quelques jours avant la diffusion. Donc c'était, à la base, c'était censé être annulé. Finalement, ils ont réussi à arranger un peu au montage pour finalement quand même faire en sorte que la saison soit diffusée. Mais j'ai failli ne jamais être diffusée. Ouais.
La saison a été sauvée. Damien.
Allez, une question de Claude Ariel sur la page YouTube de TV Magazine. Est-ce que vous supportez les Diables Rouges, vous qui êtes belge? Est-ce que vous supportez l'équipe de Belgique?
Bien sûr.
C'est vrai. Mais est-ce que vous avez le seum? Parce que ça, c'est la question aussi qu'on pose à tous les Belges par rapport au fait que vous avez un peu perdu face à l'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça.
Non, mais alors ça, par contre, c'est la grosse différence entre les Belges et les Français. C'est que nous, on n'a pas le seum. Quand on perd, on fait quand même la fête, on se dit ok, on est content de nous, on fait la fête et en fait pour moi c'est l'esprit du sport, c'est que voilà, que le meilleur gagne et puis au final c'est quand même de tous se retrouver et de faire la fête.
Bon, c'est vrai que nous on fait pas la fête quand on perd, ça c'est pas
faux. C'est vrai, vous tirez vachement plus la gueule.
Vous racontez aussi qu'à vos débuts, des professionnels vous ont dit vous n'auriez pas de succès, qu'il fallait absolument changer de voie, vous n'étiez pas du tout faite pour ça et qu'il fallait changer de métier parce que vous alliez trop loin, ça vous a jamais découragé?
Ça a été difficile par moments parce que c'est vrai que c'était assez récurrent. On venait me voir en me disant il faut vraiment que tu changes d'humour parce que juste ça marchera jamais, t'auras jamais le public ne va jamais te suivre ou tu pourras remplir des petites salles, mais ce sera jamais un succès populaire. Et moi, j'y ai toujours cru parce que je suis intimement convaincue que l'humour noir, c'est justement quelque chose qui est très populaire et je trouve que c'est très... tout le monde, en fait, quand il nous arrive quelque chose de grave, ben, y a toujours, on arrive toujours à faire une petite blague pour finalement prendre de la distance. Et je pense que du coup, c'est quelque chose qui parle vraiment à tout le monde. Et ça a été dur, c'est clair, d'y croire toute seule par moment. Mais aujourd'hui, je suis trop contente de voir que le public me suit.
Et est-ce que justement, vos parents et votre sœur, je crois qu'ils sont dans le documentaire qu'on va découvrir demain sur C8, ils vous ont soutenu également? Ils étaient étonnés de ce succès, finalement?
Oui, alors, ils avaient très peur, en fait. Ma famille... avaient très peur.
Ils avaient peur pour eux ou vous avez peur pour vous?
Ils avaient peur que ça ne marche pas et que je sois déçue. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'artiste dans ma famille. Donc, quand j'ai commencé à dire, voilà, je vais faire ce métier, je pense que tout le monde s'est dit, oh là là, ça va être chaud. Et là, ils sont très heureux de voir que ça marche. Mais ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur que ça s'arrête.
Il n'y a jamais eu justement de menaces quand vous allez trop loin, entre guillemets, sur certaines minorités que vous stigmatisez d'une certaine manière?
Ça m'est arrivé, oui, ça m'arrive de recevoir des messages assez virulents sur les réseaux sociaux. C'est vraiment principalement les réseaux sociaux. Parce que en cours de spectacle, il n'y a jamais ce genre de problème.
Pas d'agression, personne n'est monté sur scène pour arrêter le spectacle. Ouais. Ou vous poursuivre après le spectacle dans les loges, éventuellement. Mais...
Ça va, mais vraiment les réseaux sociaux. Si, ça m'arrive évidemment de recevoir des messages assez virulents, mais je pense que de toute façon.
Et vous répondez justement ou pas?
Non, je ne réponds pas.
Vous laissez couler.
Ouais, alors ça m'arrive. Je suis assez active sur mes réseaux. Souvent, je réponds au public où je fais des petites vannes, etc. Et ça m'amuse beaucoup. Et puis, j'adore avoir un lien avec mon public. Mais les insultes et tout ça, c'est vrai que je ne relève pas spécialement.
Damien.
Allez, on va prendre une question de Rico sur Twitter qui nous envoie ça. Apparemment, il a lu sur Internet que vous étiez atteinte du syndrome Asperger. Et effectivement, vous en parlez d'ailleurs dans le documentaire qui sera diffusé demain en deuxième partie de soirée. Pourquoi vous avez décidé d'en parler publiquement?
En fait, c'est venu au cours du documentaire. En fait, les caméras m'ont suivi pendant un an et demi. Et forcément, quand on parle de soi, ben, c'est venu sur le tapis. Et puis voilà, on s'est dit c'est bien d'en parler parce que y a tellement de clichés en fait autour du syndrome d'Asperger.
Peut-être dire ça... ce que c'est déjà.
Oui, voilà. C'est en fait, on appelle plus ça d'ailleurs le syndrome d'Asperger. On appelle ça un trouble du spectre autistique. Donc en fait, c'est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle. Et du coup, il y a énormément de clichés parce que c'est vrai quand on dit le mot autisme, tout de suite.
Ça fait peur.
Voilà, ça fait peur. Ouais. Et en plus, on a souvent l'image très très cliché, enfin, de l'autisme en fait, qui est vrai, hein, mais qui est très handicapant avec des personnes qui peuvent presque ne pas communiquer ou s'automutiler, etc. Mais on ne parle jamais des autres formes d'autisme, dont le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme qui est presque invisible en fait.
Comment on le détecte justement là, si c'est invisible?
Eh ben, en fait,
comment on s'est rendu compte que vous étiez atteinte de ce syndrome?
Ben, disons que moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en moi qui était un peu différent. Et je me suis toujours sentie en décalage. J'ai toujours senti que j'avais des difficultés avec les relations sociales, etc. Et un jour, j'ai découvert sur Internet, justement, on parlait du syndrome d'Asperger. Et je me suis vraiment reconnue, en fait. Et j'ai été faire des tests chez une psychiatre qui m'a validée, qui m'a confirmé, en fait, le diagnostic. Et voilà, pour moi, c'est important d'en parler parce que, justement, comme c'est invisible, il y a peu de gens qui osent en parler. Il y a beaucoup de gens qui doivent le vivre, mais qui peut-être n'osent pas le dire à cause des préjugés. Il y a aussi plein de gens qui ont un syndrome d'Asperger et qui ne le savent pas en fait et qui vivent dans une sorte de malaise alors qu'en fait une fois qu'on a le diagnostic ça fait vraiment du bien et ça résout beaucoup beaucoup de choses donc voilà c'était important pour moi de...
Et est-ce qu'on dirait comme diraient certains est-ce que c'est grave docteur finalement?
Alors c'est pas une maladie c'est pas grave et c'est même plutôt moi je vois plein de choses positives en fait il y a plein de personnes qui ont un syndrome d'Asperger, qui ont fait des grandes choses comme Steve Jobs ou Anthony Hopkins ou
enfin voilà. Quelques références en effet.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, voilà, et c'est, enfin pour moi c'est plutôt une force.
Même est-ce que c'est pas paradoxal parce que vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui va à l'inverse au devant des gens, qui a pas peur d'affronter la foule, ou alors on se trompe, vous cachez bien votre jeu, mais est-ce que c'est une façon de lutter aussi contre ce syndrome, le fait d'être entré dans cette peau d'artiste, comédienne, humoriste?
C'est vrai que c'est, en fait pour moi. Quand je suis montée sur scène, en fait, le syndrome d'Asperger, ce qui est difficile, c'est qu'on a du mal à décoder les codes sociaux. Et du coup, je me suis toujours sentie un peu en décalage en société. Mais quand je suis montée sur scène, les codes sociaux sont tellement simples sur scène parce que voilà, je parle, les gens m'écoutent. Dans une pièce de théâtre, ben, on sait qui parle quand, qui dit quoi.
C'est codifié.
C'est très codifié et c'est très clair. Et en fait, c'est la première fois que je me suis dit, c'est une situation sociale dans laquelle je me sens bien. Et c'était la première fois. Et c'est pour ça que... Bah en fait, je me suis sentie dans mon univers sur scène et c'est pour ça que j'adore.
Et syndrome, ça pourrait faire l'objet d'un spectacle? C'est-à-dire d'arriver à renverser le...
Je pense
l'objet,
que
le sujet entre vous et entre guillemets, cette maladie.
Alors, c'est pas une maladie.
Oui. Non, maladie, j'ai dit entre guillemets. Ce syndrome.
Voilà, mais ouais, ça pourrait être chouette d'en parler dans un spectacle, ouais, complètement.
Oui, nous avons reçu il y a quelques semaines de ça Paul Elkarat, vous savez, le champion des 12 coups de midi, qui a écrit un livre qu'il est aussi atteint de ce syndrome d'Asperger. Et il y a un chapitre dans ce livre où il explique qu'il est très compliqué pour un Asperger de comprendre le second degré. Comment vous faites-vous en tant qu'humoriste pour comprendre ce second degré, sachant que normalement, lorsqu'on est atteint de ce syndrome-là, on ne le comprend pas?
Alors en fait, il y a deux choses différentes. C'est le comprendre quand quelqu'un autour de nous va faire une blague et le pratiquer. Donc c'est-à-dire qu'intellectuellement, je sais écrire au second degré, je sais le faire. Après, souvent, ça dépend aussi, hein, parce que chaque personne qui a un syndrome d'Asperger est différente. Moi, ce qui va m'arriver, c'est parfois quand des personnes que je ne connais pas du tout, qui vont me faire une blague un peu sarcastique, je ne vais pas forcément la comprendre. Une fois que je connais les gens, c'est différent, mais il y a tellement de nuances, en fait. C'est assez compliqué d'en parler, d'ailleurs, parce que c'est très nuancé et ça comporte plein de caractéristiques.
On ne va pas faire un jeu de test ensemble. Je propose surtout de poursuivre cette discussion intime, d'une certaine manière, avec notre dernière rubrique, nouvelle depuis la rentrée, qui s'appelle « En toute franchise ». Le principe est simple, hein, alors c'est vous devez répondre avec le plus de sincérité possible, comme vous l'avez fait d'ailleurs jusqu'ici. Première question, votre meilleur, votre plus beau souvenir de carrière?
Je crois que c'est d'une part incroyable le talent pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et d'autre part, il y a eu aussi une date, il n'y a pas longtemps, c'était au Zénith de Caen. C'était la toute dernière date de ma tournée. Et ça avait vraiment une couleur particulière parce que ce spectacle, j'ai joué pendant 6 ans. J'ai fait plus de 600 représentations. Et d'avoir vraiment la dernière date, c'était très, très émouvant. Et ça s'est super bien passé. Les gens sentaient, étaient au courant que c'était la dernière. Donc, il y avait une ambiance très particulière. Et voilà, il y a une atmosphère qui m'a vraiment touchée.
Et après le meilleur souvenir, le pire souvenir ?
Alors, le pire souvenir, je crois que c'était... je me souviens une fois, c'était au tout début de ma carrière. J'ai joué en Belgique dans un, c'était dans un restaurant. Et en fait, la salle était divisée en deux. Donc, j'étais au milieu et je devais parler à droite et à gauche en même temps. Et derrière moi, il y avait la porte d'entrée. Et donc, les clients rentraient pendant que je jouais mes sketchs. Et c'était infernal.
Vous êtes pris la porte à plusieurs reprises,
plusieurs
c'est ça ?
Plusieurs fois, voilà. Donc, j'ai accueilli les clients, etc. pendant que je jouais. Donc, c'était vraiment...
Ah oui, ça ne fait pas partie vraiment de la mise en scène qui était prévue, j'imagine, au départ. Est-ce que vous avez, comme certains de nos invités, des manies, des tics, voire des tocs quand vous rentrez sur un plateau ou sur scène, en l'occurrence ?
Oui, je range ma loge complètement et tout doit être bien aligné, la chaise doit être bien rangée, mes chaussures doivent être bien mises et c'est vrai que ça...
C'est un peu maniaque, quoi.
Mais alors que c'est vraiment juste avant de monter sur scène, tout doit être bien, bien rangé, il doit y avoir telle chanson que j'écoute juste avant de monter sur scène, etc. C'est assez, assez codifié.
Ah, il y a une chronologie de l'événement avant de se jeter dans la fosse.
J'ai pas mal de tocs, ouais.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique ?
Oh là là. qu'est-ce qui me déplaît le plus dans mon caractère ? Je pense que... Je crois que j'ai longtemps eu du mal avec ma timidité.
Oui.
Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de monter sur scène et d'aller contre en fait les préjugés que les gens avaient sur moi parce que j'étais timide. Et c'est le lien aussi avec mon physique, c'est que de par mon physique très angélique, les gens avaient souvent l'impression que peut-être j'étais juste une blonde, pas très intéressante, juste un peu naïve. Et en fait, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de monter sur scène, c'est aussi de surprendre les gens dans ce préjugé.
Dans le titre de spectacle, je rappelle, il y a le diable quand même.
Oui.
Pour ceux qui l'auraient...
Il y a un petit indice.
Ouais, pour ceux qui l'auraient oublié. Si vous n'aviez pas été humoriste, vous auriez fait quel métier ?
J'étais prof avant de faire de l'humour. Pas longtemps, mais là-bas, c'était à ça que je me destinais. Et franchement...
Prof de quoi, sur votre spécialité ?
J'étais prof dans une section maçonnerie. Ça surprend toujours.
Ah oui. En maçonnerie ?
En maçonnerie, ouais. Mais c'est vrai. Et honnêtement, c'était un métier qui me plaisait beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation et que j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans.
Damien.
Et enfin, quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment ?
Alors, moi, c'est simple parce que j'écoute un seul chanteur. Ah. c'est Frank Turner. Et je dirais la chanson, peut-être, ce serait Mittens, peut-être, qui est une chanson qui est dans le spectacle aussi.
Qui est en permanence dans vos oreilles.
Voilà. Ouais.
On finit en musique. Merci, Laura Lowe. Merci d'être venu sur ce plateau. Donc, je rappelle, demain soir, hein, jeudi 11 novembre, C8, la nuit tout entière avec vous. Hein. On est reparti avec votre spectacle, le documentaire en deuxième partie. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On va repartir sur les routes. Le Buzz TV ne revient pas demain.
Ah non, demain, c'est férié. Demain, nous dormons. On se retrouve vendredi avec une journaliste qui officie sur RMC. Elle présente même la matinale. Elle débarque sur BFM TV aux commandes d'un débat en lien avec les primaires des Républicains. Il s'agit d'Apolline de Malherbe que nous recevrons donc vendredi sur ce plateau.
Merci et bonne route, Laura.
Merci beaucoup.
Merci.
À vous.